Honoré de Balzac, l'envers de l'histoire contemporaine, deuxième épisode, chapitre 2. Godefroy se rendit aussitôt rue d'Enfer, à l'adresse indiquée par M. Alain, et y trouva le docteur Berton, homme froid et sévère, qui l'étonna beaucoup en lui assurant l'exactitude de tous les détails donnés par M. Bernard sur la maladie de sa fille, et il obtint l'adresse d'Alperson. Ce médecin polonais, devenu depuis si célèbre, demeurait alors à Chaillot, rue Marbeuf, dans une petite maison isolée où il occupait le premier étage. Le général Roman Tarnow Vicky logeait au rez-de-chaussée, et les domestiques de ces deux réfugiés habitaient les combles de ce petit hôtel, qui n'avait qu'un étage. Godefroy ne vit pas cette fois le docteur. Il apprit qu'il était allé assez loin en province, appelé par un riche malade. Mais il fut presque content de ne pas le rencontrer, car dans sa précipitation, il avait oublié de se munir d'argent et fut obligé de retourner à l'hôtel de la Chanterie pour en prendre chez lui. Ses courses et le temps de dîner à un restaurant de la rue de l'Odéon firent atteindre à Godefroy l'heure où il devait entrer en possession de son logement au boulevard du Montparnasse. Rien n'était plus misérable que le mobilier avec lequel Madame Vautier avait garni les deux chambres. Il semblait que cette femme eût pour habitude de louer des logements qu'on n'habitait pas. Évidemment, le lit, les chaises, les tables, la commode, le secrétaire, les rideaux provenaient de ventes faites par autorité de justice, où l'usurier les avait gardés pour son compte, en n'en trouvant pas la valeur intrinsèque, cas assez fréquent. Madame Vautier, les poings sur les hanches, attendait des remerciements. Elle prit donc le sourire de Godefroy pour un sourire de surprise. « Ah, je vous ai choisi tout ce que nous avons de plus beau, mon cher monsieur Godefroy, » dit-elle d'un air triomphant. « Voilà de jolis rideaux de soie et un lit en acajou qui n'est pas piqué des vers. Il a appartenu au prince de Wissembourg et vient de son hôtel. Quand il a quitté la rue Louis-le-Grand en 1809, j'étais fille de cuisine chez lui. » De là, je suis entrée pour l'or chez mon propriétaire. » Godefroy arrêta le flux des confidences en payant son mois d'avance et donna, d'avance aussi, les 6 francs qu'il devait à Madame Vautier pour qu'elle fît son ménage. En ce moment, il entendit aboyer, et s'il n'avait pas été prévenu par M. Bernard, il aurait pu croire que son voisin gardait un chien chez lui. « Est-ce que ce chien-là jappe la nuit ?»« Oh, soyez tranquille, monsieur, prenez patience, il n'y a plus que 7 semaines à souffrir. Monsieur Bernard ne pourra pas payer son terme, et il sera mis dehors. Mais c'est des gens bien singuliers, allez, je n'ai jamais vu leur chien. Ce chien est des mois, qu'est-ce que je dis, des mois, des 6 mois sans qu'on l'entende. C'est à croire qu'ils n'ont pas de chien. » « Cet animal ne quitte pas la chambre de la dame. Il y a une dame bien malade, allez. Elle n'est pas sortie de sa chambre depuis qu'elle est entrée. Le vieux monsieur Bernard travaille beaucoup, et son fils aussi, qui est externe au collège Louis-le-Grand, où il achève sa philosophie, à 16 ans. C'est crâne, ça. Mais aussi, ce petit môme travaille comme un enragé. Vous allez les entendre déménager les fleurs qui sont chez la dame. » Car ils ne mangent que du pain, le grand-père et le petit-fils. Mais ils achètent des fleurs et des friandises pour la dame. Il faut que cette dame soit bien mal, pour ne pas être sortie d'ici depuis qu'elle y est entrée. Et à entendre M. Berton, le médecin qui vient la voir, elle n'en sortira que les pieds en avant. Et que fait-il, ce M. Bernard? C'est un savant, à ce qu'il paraît, car il écrit et il va travailler aux bibliothèques. Et monsieur lui prête de l'argent sur ce qu'il compose. Qui, monsieur? Mon propriétaire, monsieur Barbet, l'ancien libraire. Il était établi depuis 16 ans. C'est un Normand qui vendait de la salade dans les rues et qui s'est mis bouquiniste en 1818 sur les quais. Puis il a une petite boutique et il est maintenant bien riche. C'est une manière de juif qui fait 36 métiers, puisqu'il était comme associé avec l'Italien qui a bâti cette baraque pour loger des vers à soie. Ainsi, cette maison est le refuge des auteurs malheureux, dit Godefroy. Est-ce que monsieur aurait le malheur d'en être un? Demanda la veuve Vautier.
Je n'en suis qu'au début, répondit Godefroy.
Oh, mon cher monsieur, pour le mal que je vous veux, restez-en là. Journaliste, par exemple, je ne dis pas.
Godefroy ne put s'empêcher de rire, et il souhaita le bonsoir à cette cuisinière, qui, sans le savoir, représentait la bourgeoisie. En se couchant dans cette affreuse chambre carrelée en briques rouges, qui n'avait pas seulement été mise en couleur, étendue d'un papier à 7 sous le rouleau, Godefroy regretta non seulement son petit appartement de la rue Chanoinesse, mais encore la société de madame de la Chanterie. Il sentit en son âme un grand vide. Il avait déjà pris des habitudes d'esprit, et il ne se souvint pas d'avoir éprouvé de pareils regrets pour quoi que ce soit de sa vie antérieure. Cette comparaison si courte fut d'un effet prodigieux sur son âme. Il comprit que nulle vie ne pouvait valoir celle qu'il voulait embrasser, et sa résolution de devenir un émule du bon père Alain fut inébranlable. Sans avoir la vocation, il eut la volonté. Le lendemain, Godefroy, habitué par sa nouvelle vie à se lever de très grand matin, vit par sa fenêtre un jeune homme d'environ 17 ans, vêtu d'une blouse, qui revenait sans doute d'une fontaine publique, en tenant une cruche pleine d'eau dans chaque main. La figure de ce jeune homme, qui ne se savait pas vu, laissa paraître ses sentiments, et jamais Godefroy n'avait rien observé de si naïf, mais aussi rien de si triste. Les grâces de la jeunesse étaient comprimées par la misère, par l'étude et par de grandes fatigues physiques. Le petit-fils de M. Bernard était remarquable par un teint d'une excessive blancheur que rehaussait encore des cheveux très bruns. Il fit 3 voyages. Au dernier, il vit décharger une voie de bois neuf que Godefroy avait demandé la veille, car l'hiver tardif de 1838 commençait à se faire sentir et il avait neigé légèrement pendant la nuit. Nepomucène, qui venait de commencer sa journée en allant chercher ce bois, sur lequel Madame Vautier avait prélevé largement sa redevance, causait avec le jeune homme, en attendant que le sieur lui eût fourni la charge qu'il allait monter. Il était facile de deviner que le froid venu subitement causait des inquiétudes au petit-fils de M. Bernard, et que la vue de ce bois, autant que l'aspect du ciel grisâtre, lui rappelait la nécessité de faire sa provision. Mais tout à coup, le jeune homme, comme s'il se fût reproché de perdre un temps précieux, reprit ses 2 cruches et rentra précipitamment dans la maison. Il était en effet 7h30, et en les entendant sonner à la cloche du couvent de la Visitation, il songea qu'il fallait être au collège Louis-le-Grand à 8h30. Au moment où le jeune homme rentra, Godefroy allait ouvrir à Madame Vautier qui venait apporter du feu à son nouveau locataire, eu sorte que Godefroy fut témoin d'une scène qui eut lieu sur le palier. Un jardinier du voisinage, après avoir sonné plusieurs fois à la porte de M. Bernard, sans avoir fait venir personne, car sa sonnette était enveloppée de papier, eut une dispute assez grossière avec le jeune homme en lui demandant de l'argent dû pour la location des fleurs qu'il fournissait. Comme ce créancier élevait la voix, M. Bernard parut. « Auguste, dit-il à son petit-fils, habille-toi, l'heure d'aller au collège est venue. » Il prit les 2 cruches et les rentra dans la première pièce de son appartement où se voyaient des fleurs dans des jardinières. Puis il ferma la porte et revint parler au jardinier. La porte de Godefroy était ouverte, car Nepomucène avait commencé ses voyages et entassé le bois dans la première pièce. Le jardinier s'était tu devant M. Bernard, qui, vêtue d'une robe de chambre en soie couleur violette, boutonnée jusqu'au menton, avait un air imposant.
« Vous pouvez bien nous demander ce que nous vous devons sans crier, » dit M. Bernard.
« Soyez juste, mon cher monsieur, » dit le jardinier. « Vous deviez me payer toutes les 3 semaines, et voilà 3 mois, 10 semaines que je n'ai rien reçu, et vous me devez 120 francs. Nous sommes habitués à louer nos fleurs à des gens riches qui nous donnent notre argent dès que nous le demandons, et voilà 5 fois que je viens. » Nous avons nos loyers à payer, nos ouvriers, et je ne suis guère plus riche que vous. Ma femme, qui vous donnait du lait et des œufs, ne viendra pas non plus ce matin. Vous lui devez 30 francs, et elle aime mieux ne pas venir que de vous tourmenter, car elle est bonne, ma femme. Si on l'écoutait, le commerce ne serait pas possible. C'est pour cela que moi qui n'entends pas de cette oreille-là, vous comprenez. »
En ce moment, Auguste sortit, vêtu d'un méchant petit habit vert et d'un pantalon en drap de même couleur, d'une cravate noire et de bottes usées. Ses vêtements, quoique soigneusement brossés, accusaient une détresse arrivée au dernier degré, car ils étaient trop courts et trop étroits, en sorte que l'étudiant semblait devoir les faire craquer au moindre mouvement. Les coutures devenues blanches, les contours recroquevillés, les boutonnières crevées, malgré les raccommodages, y montraient aux yeux les moins exercés les ignobles stigmates de l'indigence. Cette livrée contrastait avec la jeunesse d'Auguste, qui s'en alla, mordant un morceau de pain rassis, où ses belles et fortes dents laissaient leur empreinte. Il déjeunait ainsi pendant le trajet du boulevard Montparnasse à la rue Saint-Jacques, tout en tenant ses livres et ses papiers sous le bras, et coiffé d'une casquette aussi trop petite pour sa forte tête, d'où s'échappait sa magnifique chevelure noire. En passant devant son grand-père, il échangea, mais rapidement, un regard d'une effroyable tristesse, car il le voyait aux prises avec une difficulté presque insurmontable et dont les conséquences étaient terribles. Pour laisser place à l'élève de philosophie, le jardinier se recula jusqu'à la porte de Godefroy, et au moment où cet homme se trouvait sur la porte, Nepomucène, chargé de bois, embarrassa le palier, en sorte que le créancier recula jusqu'à la fenêtre. « Monsieur Bernard !» cria la veuve Vautier. « Croyez-vous que Monsieur Godefroy ait loué son logement pour que vous y teniez vos séances ?»«
Pardon, madame, » répondit le jardinier, « le carré s'est trouvé plein. »
« Je ne dis pas cela pour vous, monsieur Cartier, » dit la veuve.
« Restez, » s'écria Godefroy en s'adressant au jardinier. « Et vous, mon cher voisin, » ajouta-t-il en regardant monsieur Bernard, que cette injure atroce trouvait insensible. « S'il vous convient de vous expliquer dans cette chambre avec vos jardiniers, venez-y. »
Le grand vieillard, hébété de douleur, jeta sur Godefroy un coup d'œil qui contenait 1000 remerciements.
Quant à vous, ma chère madame Vautier, ne soyez pas si rude pour monsieur, qui d'abord est un vieillard et à qui vous avez l'obligation de me voir loger ici.
Ah, bah ! S'écria la veuve.
Puis, si les gens qui ne sont pas riches ne s'aident pas entre eux, qui donc les aidera ?
Laissez-nous, madame Vautier. Je soufflerai mon feu moi-même. Voyez à faire mettre mon bois dans votre cave. Je crois que vous en aurez bien soin.
Madame Vautier disparut, car Godefroy, en lui donnant le bois à serrer, venait de donner pâture à son avidité.
« Entrez par ici, messieurs, » dit Godefroy, qui fit un signe au jardinier en présentant 2 chaises au débiteur et au créancier. Le vieillard conversa debout, mais le jardinier s'assit.
« Voyons, mon cher, les riches ne paient pas aussi régulièrement que vous le dites. » Et il ne faut pas tourmenter un digne homme pour quelques louis. Monsieur touche sa pension tous les 6 mois, et il ne peut pas vous faire une délégation pour une si misérable somme. Mais moi, j'avancerai l'argent, si vous le voulez absolument.
Monsieur Bernard a touché l'argent de sa pension il y a 20 jours environ, et il ne m'a pas payé. Je serais fâché de lui faire de la peine.
Comment ? Vous lui fournissez des fleurs depuis...
Oui, monsieur, depuis 6 ans. et il m'a toujours bien payé. »
Monsieur Bernard, qui prêtait l'oreille à tout ce qui se passait chez lui, sans écouter cette discussion, entendit des cris à travers les cloisons, et il s'en alla tout effrayé, sans dire mot.
« Allons, allons, mon brave homme, apportez de belles fleurs, vos plus belles fleurs, ce matin même, à monsieur Bernard, et que votre femme envoie de bons œufs et du lait. Je vous paierai ce soir, monsieur. »
Cartier regarda singulièrement Godefroy.
« Vous en savez sans doute plus que madame Vautier, qui m'a fait prévenir de me dépêcher si je voulais être payé, dit-il. « Ni elle ni moi, monsieur, nous ne pouvons nous expliquer pourquoi des gens qui mangent du pain, qui ramassent des épluchures de légumes, des restes de carottes, de navets et de pommes de terre au coin des portes des restaurateurs. Oui, monsieur, j'ai surpris le petit avec un vieux cabas qui l'emplissait. Eh bien, pourquoi ces gens-là dépensent près de 100 francs par mois de fleurs? On dit que le vieux n'a que 3 000 francs de pension. »
En tout cas, répliqua Godefroy, ce n'est pas à vous à trouver mauvais qu'ils se ruinent en fleurs.
Oui, monsieur, pourvu que je sois payé.
Apportez-moi votre mémoire.
Très bien, monsieur, dit le jardinier avec une teinte de respect. Monsieur veut sans doute voir la dame cachée.
Allons, mon cher ami, vous vous oubliez, répliqua sèchement Godefroy.
Retournez chez vous. Choisissez vos plus belles fleurs pour remplacer celles que vous devez reprendre. Si vous pouvez me donner à moi de bonnes crèmes et des œufs frais, vous aurez ma pratique, et j'irai voir ce matin votre établissement.
C'est un des plus beaux de Paris, monsieur, et j'expose au Luxembourg. Mon jardin, qui a 3 arpents, est situé sur le boulevard, derrière le jardin de la Grande Chaumière.
Bien, monsieur Cartier, vous êtes, à ce que je vois, plus riche que je ne le suis. Ayez donc des égards pour nous, car qui sait si nous n'aurons pas quelques besoins les uns des autres. »
Le jardinier sortit, fort inquiet de ce que pouvait être Godefroy.
« J'ai pourtant été comme cela, » se dit Godefroy en soufflant son feu. « Quel admirable représentant du bourgeois d'aujourd'hui! Commère, curieux, dévoré d'égalité, jaloux de la pratique, furieux de ne pas savoir pourquoi un pauvre malade reste dans sa chambre sans se montrer et cachant sa fortune, vaniteux au point de la découvrir pour pouvoir se mettre au-dessus de son voisin. Cet homme doit être au moins lieutenant dans sa compagnie. Avec quelle facilité se joue à toutes les époques la scène de Monsieur Dimanche. Encore un instant, et je me faisais un ami du sieur Cartier. »
Le grand vieillard interrompit ce soliloque de Godefroy qui prouve combien ses idées étaient changées depuis 4 mois.
« Pardon, mon voisin, » dit-il d'une voix troublée. « Je vois que vous venez de renvoyer le jardinier satisfait, car il m'a salué poliment. En vérité, jeune homme, la Providence semble vous avoir envoyé exprès ici, pour nous, au moment même où nous succombions. Hélas, une indiscrétion de cet homme vous a fait deviner bien des choses. » Il est vrai que j'ai touché le semestre de ma pension il y a 15 jours, mais j'avais des dettes plus pressantes que celles-là, et il a fallu réserver la somme de notre loyer sous peine d'être chassé d'ici. Vous, à qui j'ai confié l'état dans lequel est ma fille, et qui l'avez entendu... »
Il regarda d'un air inquiet Godefroy, qui fit un signe affirmatif.
« Eh bien, jugez si ce ne serait pas le coup de la mort, car il faudrait la mettre dans un hôpital. Mon petit-fils et moi, nous redoutions cette matinée, et ce n'était pas Cartier que nous craignions le plus, mais le froid. »
« Mon cher monsieur Bernard, j'ai du bois, prenez-en, » reprit Godefroy.
« Comment ? » s'écria le vieillard, « reconnaître jamais de tels services ?»«
En les acceptant sans façon, » répliqua vivement Godefroy, et en m'accordant toute confiance.
« Mais quels sont mes droits à tant de générosité ?»
demanda M. Bernard, redevenant défiant.
« Ma fierté, celle de mon petit-fils, sont vaincues, » s'écria-t-il, « car nous sommes déjà descendus à des explications avec les 2 ou 3 créanciers que nous avons. Les malheureux n'ont pas de créanciers, Il faut pour en avoir une certaine splendeur extérieure que nous avons perdue. Mais je n'ai pas encore abdiqué mon bon sens, ma raison,
ajouta-t-il comme s'il se fût parlé à lui-même. « Monsieur, répondit sérieusement Godefroy, le récit que vous m'avez fait hier tirerait des larmes à un usurier. »
Non, non, car Barbet, ce libraire, notre propriétaire, spécule sur ma misère et l'a fait espionner par cette Vautier et son ancienne servante.
« Comment peut-il spéculer sur vous ? » demanda Godefroy.
« Je vous dirai cela plus tard, répondit le vieillard. Ma fille peut avoir froid, et puisque vous le permettez, je suis dans une situation à recevoir l'aumône de mon plus cruel ennemi. »
« Je vais vous porter du bois, »
dit Godefroy, qui traversa le palier en tenant une dizaine de bûches qu'il déposa dans la première pièce de l'appartement du vieillard. M. Bernard en avait pris autant, et quand il vit cette petite provision de bois, il ne put réprimer le sourire niais et quasiment imbécile par lequel les gens sauvés d'un grand danger, et qui leur semble inévitable, expriment leur joie, car il y a de la terreur encore dans cette joie.
« Acceptez tout de moi, mon cher monsieur Bernard, sans aucune défiance, et quand votre fille sera sauvée, quand vous serez heureux, je vous expliquerai tout. Mais jusque-là, laissez-moi faire. Je suis allé chez le médecin juif, et malheureusement, Alperson est absent. Il ne revient que dans 2 jours. »
En ce moment, une voix qui parut être à Godefroy et qui réellement était d'un timbre frais et mélodieux, cria « Papa ! Papa !» sur 2 notes expressives. En parlant au vieillard, Godefroy avait déjà remarqué dans les rainures de la porte qui faisait face à la porte d'entrée les lignes blanches d'une peinture soignée qui révélait de grandes différences entre la chambre de la malade et les autres pièces de ce logement. Mais sa curiosité si vivement excitée fut alors portée au plus haut degré. Sa mission de bienfaisance n'était plus qu'un prétexte. Le but fut de voir la malade. Il se refusait à croire qu'une créature douée d'une semblable voix pût être un objet de dégoût.
« Vous vous donnez vraiment trop de peine, papa !» disait la voix. « Pourquoi ne pas avoir plus de domestiques que vous n'en avez ? À votre âge, mon Dieu !»
« Tu sais bien, ma chère Vanda, que je ne veux pas que d'autres que ton fils et moi te servent. »
Ces 2 phrases que Godefroy entendit à travers la porte, ou plutôt devina, car une portière étouffait les sons, lui fit pressentir la vérité. La malade, entourée de luxe, devait ignorer la situation réelle de son père et de son fils. La douillette de soie de M. Bernard, les fleurs et sa conversation avec Cartier avaient déjà donné quelques soupçons à Godefroy, qui restait là, presque hébété de ce prodige d'amour paternel. Le contraste entre la chambre de la malade, telle qu'il se la figurait, et le reste, était d'ailleurs étourdissant. Qu'on en juge. Par la porte de la 3e chambre, que le vieillard avait laissée entr'ouverte, Godefroy aperçut 2 couchettes jumelles en bois peint comme les couchettes des pensions infimes et garnies d'une paillasse et d'un petit matelas mince sur lesquels il n'y avait qu'une couverture. Un petit poêle en fonte, pareil à ceux sur le couvercle desquels les portiers font leur cuisine et au bas duquel se voyait une 10aine de mottes, eût expliqué le dénuement de M. Bernard, sans les autres détails tout à fait en harmonie avec cet horrible poêle. En avançant d'un pas, Godefroy vit la poterie des plus pauvres ménages, des jattes en terre vernie où nageaient des pommes de terre dans de l'eau sale, 2 tables en bois noirci chargées de papier, de livres, et placées devant la croisée qui donnait rue Notre-Dame-des-Champs, indiquaient les occupations nocturnes du père et du fils. Il y avait sur les 2 tables 2 chandeliers en fer battu comme en ont les pauvres, et dans lesquels Godefroy aperçut des chandelles du moindre prix, c'est-à-dire de celles dont la livre se compose de 8 chandelles. Sur une 3e table, qui servait de table de cuisine, brillaient deux couverts et une petite cuillère en vermeil, des assiettes, un bol, des tasses en porcelaine de Sèvres, un double couteau de vermeil et d'acier dans son écrin, enfin la vaisselle de la malade. Le poêle était allumé. L'eau contenue dans le fourneau fumait faiblement. Une armoire en bois peint contenait sans doute le linge et les effets de la fille de M. Bernard, car sur le lit du père, il vit l'habillement qu'il lui avait vu la veille, posé en travers en façon de couvre-pied. D'autres hardes, placées de la même manière sur le lit du petit-fils, faisaient présumer que toute leur garde-robe était là, car sous le lit, Godefroy aperçut des chaussures. Le carreau, balayé sans doute rarement, ressemblait à celui des classes dans les pensionnats. Un pain de 6 livres, entamé, se voyait sur une planche au-dessus de la table. Enfin, c'était la misère à son dernier épisode. La misère parfaitement organisée, avec la froide décence du parti pris de la supporter. La misère athée, qui veut, qui doit, et qui ne peut pas tout faire chez elle, et qui alors intervertit les usages de tous ces pauvres meubles. Aussi, une odeur forte et nauséabonde s'exhalait-elle de cette pièce, rarement nettoyée. L'antichambre, où se trouvait Godefroy, était au moins convenable, et il devina qu'elle servait à cacher les horreurs de celle où demeuraient le petit-fils et le grand-père. Cette antichambre, tendue d'un papier quadrillé dans le genre écossais, était garnie de 4 chaises en noyer, d'une petite table, et ornée de la gravure en couleur du portrait de l'empereur, fait par Horace Vernet. Du portrait de Louis XVIII, de celui de Charles X et du prince Poniatowski, sans doute l'ami du beau-père de M. Bernard. La fenêtre était décorée de rideaux en calicot, bordés de bandes rouges et à franges. Godefroy, qui surveillait Nepomucène, l'entendant monter une charge de bois, lui fit signe de la décharger tout doucement dans l'antichambre de M. Bernard, et, par une attention qui prouvait quelque progrès chez l'initié, il ferma la porte du taudis pour que le garçon de la veuve Vautier ne sût rien de la misère du vieillard. L'antichambre était alors encombrée de 3 jardinières pleines des plus magnifiques pleurs, 2 oblongues et 1 ronde, toutes 3 en bois de palissandre et d'une grande élégance. Aussi Nepomucène ne put-il s'empêcher de dire, après avoir posé son bois sur le carreau, « Est-ce gentil? Ça doit y coûter cher. » « Jean, ne fais donc pas tant de bruit !» cria M. Bernard. « Entendez-vous ? » dit Nepomucène à Godefroy. « Il est toqué pour sûr, le vieux bonhomme. »« Sais-tu comment tu seras à son âge ?»« Oh, que oui, je le sais !» répondit Nepomucène. « Je serai dans un sucrier. »«
Dans un sucrier ?»«
Oui, l'on aura sans doute fait du noir avec mes os. J'ai vu les charretiers des raffineurs assez souvent à Montsouris venir chercher du noir pour leur fabrique, et ils m'ont dit qu'ils en employaient à faire le sucre. » Et il alla chercher une autre charge de bois après cette réponse philosophique. Godefroy tira discrètement à la porte de M. Bernard et le laissa seul avec sa fille. Madame Vautier, qui pendant ce temps avait fait le déjeuner de son nouveau locataire, vint le servir, aidée de Félicité. Godefroy, plongé dans ses réflexions, regardait le feu de sa cheminée. Il était absorbé par la contemplation de cette misère qui contenait tant de misères différentes, mais où il entrevoyait aussi les joies ineffables des 1000 triomphes remportés par l'amour filial et paternel. C'était comme des perles semées sur de la bure. Quel roman, parmi les plus célèbres, valent ces réalités, se disait-il. Quelle belle vie que celle où l'on épouse de pareilles existences, où l'âme en pénètre les causes et les effets en y remédiant, en calmant les douleurs, en aidant bien. Aller ainsi s'incarner au malheur, s'initier à de tels intérieurs, agir perpétuellement dans les drames renaissants dont la peinture nous charme chez les auteurs célèbres. Je ne croyais pas que le bien fût plus piquant que le vice.
Monsieur est-il content ?
Demanda Madame Vautier, qui, aidée de Félicité, venait d'apporter la table près de Godefroy.
Godefroy aperçut alors une excellente tasse de café au lait, accompagnée d'une omelette fumante, de beurre frais et de petits radis roses.
« Où diable avez-vous pêché les radis ?» demanda Godefroy.
« Ils m'ont été donnés par Monsieur Cartier, » répondit-elle. « J'en ai fait hommage à monsieur. »
« Et que me demandez-vous pour un déjeuner pareil tous les jours ?» dit Godefroy.
« Dame, monsieur, soyez juste, il est bien difficile de vous le fournir pour moins de 30 sous. »«
Va pour 30 sous, » dit Godefroy.
« Mais d'où vient qu'on ne demande que 45 francs par mois pour le dîner à côté d'ici, chez Madame Machillot, ce qui fait 30 sous par jour ?»
Oh, quelle différence, monsieur, de préparer à dîner pour 15 personnes ou de vous aller chercher tout ce qu'il faut pour un déjeuner.
Voyez, un petit pain, des œufs, du beurre, allumer le feu, du sucre, du lait, du café.
Songez qu'on vous demande 16 sous pour une simple tasse de café au lait sur la place de l'Odéon, et vous donnez 1 ou 2 sous au garçon. Ici, vous n'avez aucun embarras, vous déjeunez chez vous en pantoufles.
« Allons, c'est bien, » répondit Godefroy.
« Sans Madame Cartier qui me fournit le lait, les œufs, les herbes, je ne m'en tirerai pas. Faut aller voir leur établissement, monsieur.
Ah, c'est une belle chose. Ils occupent 5 garçons jardiniers. Et Nepomucène y va tirer de l'eau tout l'été. On me le loue pour arroser. Ils font beaucoup d'argent avec les melons et les fraises.
Il paraît que monsieur s'intéresse beaucoup à monsieur Bernard. »
demanda d'une voix douce la veuve Vautier, car pour répondre comme cela de leur dette, monsieur ne sait peut-être pas tout ce qu'ils doivent. Il y a la dame du cabinet de lecture de la place Saint-Michel qui vient tous les 3 ou 4 jours pour 30 francs, et elle en a bien besoin, Dieu de Dieu.
Lit-elle, cette pauvre dame malade? Elle lit.
Enfin, à 2 sous le volume, 30 francs en 3 mois.
« C'est 100 volumes par mois ?» dit Godefroy.
« Ah, voilà le vieux qui va chercher la crème et le petit pain de madame, » reprit la veuve Vautier.
« C'est pour le thé, car elle ne vit que de thé, cette dame. Elle en prend 2 fois par jour, et 2 fois par semaine il lui faut des douceurs. Elle est friande. Le vieux lui achète des gâteaux, des pâtés de chez le pâtissier de la rue de Bussy. » Oh, quand il s'agit d'elle, il ne regarde à rien. Il dit que c'est sa fille. Plus souvent qu'on fait tout ce qu'il fait à son âge pour sa fille. Il s'extermine, lui et son Auguste, pour elle.
Monsieur est-il comme moi?
Je donnerais bien 20 francs pour l'avoir. Monsieur Berton dit que c'est un monstre, une chose à montrer pour de l'argent. Ils ont bien fait de venir dans un quartier comme le nôtre où il n'y a point de monde. Comme ça... « Monsieur compte dîner chez Madame Machillot ?»«
Oui, je compte aller m'arranger, là. »«
Monsieur, ce n'est pas pour vous détourner de cette intention, mais, gargote pour gargote, vous feriez mieux d'aller dîner rue de Tournon. Vous ne seriez point engagé pour 1 mois, et vous auriez un meilleur ordinaire. »«
Où, rue de Tournon ?»«
Chez le successeur de la mère Girard. C'est là que vont souvent ces messieurs d'en haut, et ils sont contents. »
Mais content comme il n'est pas possible.
Eh bien, mère Vautier, je suivrai votre conseil, et j'irai dîner là.
Mon cher monsieur, dit la concierge enhardie par l'air de bonhomie que Godefroy prenait avec intention.
Là, sérieusement, est-ce que vous seriez assez jobard pour vouloir payer les dettes de monsieur Bernard?
Ça me ferait bien du chagrin, car songez, mon brave monsieur Godefroy, qu'il a bien près de 70 ans, qu'après lui, Bernique, plus de pension. Et avec quoi serez-vous remboursé?
Les jeunes gens sont bien imprudents. Savez-vous qu'il doit plus de 1000 écus?
Et à qui? Demanda Godefroy.
Oh, à qui? Ce n'est pas mes affaires, répondit mystérieusement la Vautier.
Il suffit qu'il les doit, et entre nous, il n'est pas à la noce. Il ne trouvera pas 1 liard de crédit dans le quartier à cause de cela.
1000 écus,
répéta Godefroy. Ah, soyez bien tranquille, si j'avais 1000 écus, je ne serais pas votre locataire. Moi, voyez-vous, je ne puis pas voir la souffrance des autres, et pour quelques 100 francs que ça me coûtera, je saurai que mon voisin, un homme en cheveux blancs, a du pain et du bois. Que voulez-vous? On perd cela souvent aux cartes. Mais 3000 francs, y pensez-vous, bon Dieu? La mère Vautier, trompée par la feinte franchise de Godefroy, laissa paraître sur son visage verdâtre un rire de satisfaction qui confirma les soupçons du locataire. Godefroy fut persuadé que cette vieille était le complice d'une trame ourdie contre le pauvre monsieur Bernard. C'est singulier, monsieur. Quelles imaginations on se fourre dans la tête. Vous allez me dire que je suis bien curieuse. Mais en vous voyant hier causant avec monsieur Bernard, je me suis figuré que vous étiez commis de librairie, car c'est ici le quartier. J'ai logé un prote d'imprimerie, que son imprimerie était rue de Vaugirard, et il avait le même nom que vous.
Qu'est-ce que cela vous fait, mon état? Dit Godefroy.
Bah, que vous me le disiez, que vous me le disiez pas, reprit la Vautier, je le saurai toujours. Voilà M. Bernard, par exemple. Eh bien, pendant 18 mois, je n'ai rien su de ce qu'il était. Mais le 19e mois, j'ai fini par découvrir qu'il avait été magistrat, juge ou n'importe quoi dans la justice, et qu'il était écrit là-dessus. Qui gagne-t-il? Je le dis. Et s'il me l'avait confié, je me tairais. Voilà.
Je ne suis pas encore commis libraire, mais je le serai peut-être bientôt.
Ah, je m'en doutais, dit vivement la veuve Vautier en se retournant, et quittant le lit qu'elle faisait pour avoir un prétexte de rester avec son locataire. Vous êtes venu pour couper l'herbe sous le pied à...
Bon, un homme averti en vaut deux.
Halte là! S'écria Godefroy en se mettant entre la Vautier et la porte. Voyons, quel intérêt vous donne-t-on là-dedans?
Tiens, tiens, reprit la vieille en guignant Godefroy, vous êtes fièrement malin tout de même.
Elle alla fermer la porte de la première pièce au verrou, puis elle revint s'asseoir sur une chaise devant le feu.
Ma parole d'honneur, comme je m'appelle Vautier, je vous ai pris pour un étudiant, jusqu'à ce que je vous ai vu donnant votre bois au père Bernard.
Ah, vous êtes un finaud.
Nom d'une pipe, êtes-vous comédien? Je vous prenais pour un jobard.
Voyons, m'assurez-vous 1000 francs?
Aussi vrai que le jour nous éclaire, mon vieux barbet et monsieur Métivier m'ont promis 500 francs pour veiller au grain.
Hein? 500 francs? Allons donc! S'écria Godefroy. 200 tout au plus, la mère, et encore promis. Et vous ne les assignerez pas. Si vous me mettiez à même d'avoir l'affaire qu'ils veulent faire avec monsieur Bernard, moi, je donnerai 400 francs.
Voyons, où en sont-ils?
Mais ils ont donné 1500 francs sur l'ouvrage, et le vieux a reconnu devoir 1000 écus. Ils lui ont lâché cela 100 francs à 100 francs, en s'arrangeant pour le laisser dans la misère. C'est eux qui lui déchaînent les créanciers. Ils ont envoyé pour sûr Cartier.
Là, Godefroy, par un regard plein d'une ironique perspicacité jetée sur la Vautier, lui fit voir qu'il comprenait le rôle qu'elle jouait au profit de son propriétaire. Cette phrase fut un double trait de lumière pour lui, car la scène assez singulière qui s'était passée entre le jardinier et lui s'expliquait aussi.
« Oh ! Reprit-elle. Ils le tiennent, car où trouvera-t-il jamais 1000 écus? Ils comptent lui offrir 500 francs le jour où il leur remettra l'ouvrage, et 500 francs pour chaque volume mis en vente. L'affaire est faite au nom d'un libraire que ces deux messieurs ont établi sur le quai des Augustins.
Ah, le petit chose?
Oui, c'est cela, Morand, l'ancien commis de monsieur. Il paraît qu'il y a bien de l'argent à gagner.
Oh, il y a bien de l'argent à y mettre,
répondit Godefroy en faisant une moue significative. On frappa doucement à la porte, et Godefroy, très heureux de l'interruption, se leva pour aller ouvrir. Ce qui est dit est dit. Mère Vautier, fit Godefroy en voyant Monsieur Bernard.
Monsieur Bernard, s'écria-t-elle, j'ai une lettre pour vous.
Le vieillard redescendit quelques marches.
Eh non, je n'ai pas de lettre, monsieur Bernard. Je voulais seulement vous dire de vous méfier de ce petit jeune homme. C'est un libraire.
Ah, tout s'explique, se dit en lui-même le vieillard. Et il revint chez son voisin, la physionomie entièrement changée. L'expression de froideur calme avec laquelle monsieur Bernard se montra contrastait tellement avec l'air affable et ouvert produit par l'expression de la reconnaissance que Godefroy fut frappé d'un si subit changement.
« Monsieur, pardonnez-moi de venir troubler votre repos, mais depuis hier vous me comblez, et le bienfaiteur crée des droits à l'obligé. »
Godefroy s'inclina.
« Moi, qui depuis 5 ans ai souffert la passion de Jésus-Christ tous les 15 jours !» Moi qui, pendant 36 ans, n'ai représenté la société, le gouvernement, qui était alors la vengeance publique, et qui, vous le devinez, n'avait plus d'illusions. Non, je n'ai plus que des douleurs. Eh bien, monsieur, l'attention que vous avez eue de fermer la porte du chenil où mon petit-fils et moi nous couchons, cette petite chose a été pour moi le ver d'eau dont parle Bossuet. Oui, j'ai retrouvé dans mon cœur, dans ce cœur épuisé qui ne fournit plus de larmes, comme mon corps ne fournit plus de sueur, j'ai retrouvé la dernière goutte de cet élixir qui, dans la jeunesse, nous fait voir en beau toutes les actions humaines. Et je venais vous tendre cette main, que je ne tends qu'à ma fille. Je venais vous apporter cette rose céleste de la croyance au bien.
Monsieur Bernard, dit Godefroy en se souvenant des leçons du bonhomme Alain.
Je n'ai rien fait dans le but de me voir l'objet de votre reconnaissance. Vous vous trompez en ceci.
Ah, voilà de la franchise, reprit l'ancien magistrat. Eh bien, cela me plaît. J'allais vous réprimer.
Pardon, je vous estime. Ainsi, vous êtes libraire, et vous êtes venu pour enlever mon ouvrage à la compagnie Barbet, Métivier et Morand. Tout est expliqué. Vous me faites des avances comme ils m'en ont fait. Seulement, vous y mettez de la grâce.
C'est la Vautier qui vient de vous dire que je suis un commis libraire ? Demanda Godefroy au vieillard.
Oui, répondit-il.
Eh bien, monsieur Bernard, pour savoir ce que je puis vous donner au-dessus de ce que vous offrent ces messieurs, il faudrait me dire les conditions que vous avez faites avec eux.
C'est juste, reprit l'ancien magistrat, qui parut heureux de se voir l'objet de cette concurrence à laquelle il ne pouvait que gagner.
Savez-vous quel est l'ouvrage ?
Non, je sais seulement qu'il y a une bonne affaire.
Il n'est que 9h30, ma fille a déjeuné, mon petit-fils Auguste ne revient qu'à 10h15. Cartier n'apportera les fleurs que dans 1 heure. Nous pouvons causer.
Monsieur. Monsieur qui ?
Godefroy.
Monsieur Godefroy, l'œuvre dont il s'agit a été conçue par moi en 1825, à l'époque où, frappé de la destruction persistante de la propriété immobilière, le ministère proposa cette loi sur le droit d'aînesse, qui fut rejetée. J'avais remarqué certaines imperfections dans nos codes et dans les institutions fondamentales de la France. Nos codes ont été l'objet de travaux importants, mais tous ces traités n'étaient que de la jurisprudence. Personne n'avait osé contempler l'œuvre de la Révolution, ou de Napoléon, si vous voulez, dans son ensemble, étudier l'esprit de ces lois, les juger dans leur application. C'est là mon ouvrage, en gros. Il est intitulé provisoirement « Esprit des lois nouvelles ». Il embrasse les lois organiques aussi bien que les codes, tous les codes, car nous avons bien plus de 5 codes. Aussi mon livre a-t-il 5 volumes et 1 volume de citations, de notes, de renvois. J'ai pour 3 mois encore de travaux. Le propriétaire de cette maison, ancien libraire, sur quelques questions que je lui ai faites, à deviner, flairer, si vous voulez, la spéculation. Moi, primitivement, je ne pensais qu'au bien de mon pays. Ce barbet m'a circonvenu. Vous allez vous demander comment un libraire a pu entortiller un vieux magistrat. Mais, monsieur, vous connaissez mon histoire, et cet homme est un usurier. Il a le coup d'œil et le savoir-faire de ces gens-là. Son argent a toujours talonné mes besoins. Il s'est toujours trouvé le jour où le désespoir me livrait sans défense. Eh non, mon cher monsieur, dit Godefroy, il a tout bonnement un espion dans la mer Vautier. Mais les conditions, voyons, dites-les nettement. On m'a prêté 1500 francs, représentés aujourd'hui par 3 lettres de change de 1000 francs, et ces 3000 francs sont hypothéqués par un traité sur la propriété de mon ouvrage, dont je ne peux disposer qu'en remboursant les lettres de change, et les lettres de change sont protestées, il y a jugement contradictoire. Voilà, monsieur, les complications de la misère. Dans la plus modeste évaluation, la première édition de cette œuvre immense, l'œuvre de 10 ans de travaux et de 36 ans d'expérience, vaudrait bien 10 000 francs. Eh bien, il y a 5 jours, Morand me proposait 1000 écus et mes lettres de change acquittées pour la toute propriété. Comme je ne saurais trouver 3 240 francs, il faudra, si vous ne vous interposez entre eux et moi, leur céder. Ils ne se sont pas contentés de mon honneur. Ils ont voulu, pour plus de garantie, des lettres de change protestées, et arriver à l'exercice de la contrainte par corps. Si je rembourse, ces usuriers auront doublé leurs fonds. Si je traite, ils auront une fortune, car l'un d'eux est un ancien marchand de papier, et Dieu sait combien ils peuvent restreindre les frais de la fabrication. Mais comme ils ont mon nom, ils savent que le placement de 1000 exemplaires est assuré.
« Comment, monsieur, vous, ancien magistrat ?»«
Que voulez-vous? Pas un ami, pas un souvenir. Et j'ai sauvé bien des têtes, si j'en ai fait tomber. Enfin, ma fille de qui je suis la garde-malade, à qui je tiens compagnie, car je ne travaille que pendant la nuit. Ah, jeune homme, il n'y a que les malheureux qui puissent être les juges de la misère. » Aujourd'hui, je trouve que jadis j'étais trop sévère.
Monsieur, je ne vous demande pas votre nom. Je ne puis pas disposer de 1000 écus, surtout en payant Alperson et vos petites dettes. Mais je vous sauverai si vous jurez de ne pas disposer de votre ouvrage sans que j'en sois averti. Car il est impossible de faire une affaire aussi importante que celle-là sans consulter les gens du métier. Mes patrons sont puissants, et je puis vous promettre le succès si vous pouvez me promettre le plus profond secret, même avec vos enfants, et me tenir votre promesse. Le seul succès que je veuille obtenir, c'est la santé de ma pauvre Vanda, car, monsieur, de telles souffrances dans le cœur d'un père éteignent tout autre sentiment. Et l'amour de la gloire n'est plus rien pour qui voit la tombe entr'ouverte. Je viendrai vous voir ce soir. L'on attend Alperson de moment en moment, et je me suis promis d'aller voir tous les jours s'il arrive. Je vais employer pour vous toute cette journée. Ah, si vous étiez la cause de la guérison de ma fille, monsieur. Monsieur, je voudrais vous donner mon ouvrage.
Monsieur, dit Godefroy, je ne suis pas libraire. Le vieillard fit un geste de surprise. « Que voulez-vous? Je l'ai laissé croire à la vieille Vautier pour bien connaître les pièges qui vous étaient tendus. »«
Qui donc êtes-vous? »
« Godefroy, répondit l'initié. « Et comme vous me permettrez de vous offrir de quoi mieux vivre, vous pouvez, ajouta-t-il en souriant, me nommer Godefroy de Bouillon. » L'ancien magistrat était trop ému pour rire de cette plaisanterie. Il tendit la main à Godefroy et lui serra la main que son voisin lui présentait.
« Vous voulez garder l'incognito ? »
dit l'ancien magistrat en regardant Godefroy avec une tristesse mélangée d'inquiétude.
« Permettez-le-moi. » Eh bien, faites comme vous voudrez. Et venez ce soir, vous verrez ma fille, si son état le permet. »
C'était évidemment la plus grande concession que le pauvre père put faire. Et au regard de remerciement que lui jeta Godefroy, le vieillard eut la satisfaction de se voir compris. Une heure après, Cartier vint avec d'admirables fleurs, renouvela lui-même les jardinières, y mit de la mousse fraîche, et Godefroy paya la facture, de même qu'il paya la note du cabinet de lecture, qui fut envoyée quelques instants après. Les livres et les fleurs, c'était le pain de cette pauvre femme malade, ou plutôt torturée, qui se contentait de si peu d'aliments. En pensant à cette famille entortillée par le malheur comme celle de la Haut-Cône, image sublime de tant d'existence, Godefroy, qui s'en alla vers la rue Marbeuf en se promenant, se sentait au cœur encore plus de curiosité que de bienfaisance. Cette malade, entourée de luxe, dans une affreuse misère, lui faisait oublier les détails horribles de la plus bizarre de toutes les affections nerveuses, et qui, fort heureusement, est une violente exception constatée par quelques historiens. Un de nos plus babillards chroniqueurs, Talmant des Réaux, en cite un exemple. On aime à se figurer les femmes, élégantes jusque dans leurs plus terribles souffrances. Aussi Godefroy se promettait-il, comme un plaisir, de pénétrer dans cette chambre, où le médecin, le père et le fils étaient seuls entrés depuis 6 ans. Néanmoins, il finit par se gourmander de sa curiosité. Le néophyte comprit même que ce sentiment si naturel finirait par s'éteindre à mesure qu'il exercerait son bienfaisant ministère, à force de voir de nouveaux intérieurs, de nouvelles plaies. On arrive en effet à la divine mansuétude que rien n'étonne et ne surprend. De même qu'en amour, on arrive à la quiétude sublime du sentiment, sûr de sa force et de sa durée, par une constante pratique des peines et des douceurs. Godefroy apprit quelle personne était arrivée dans la nuit. Mais dès le matin, il avait été forcé de monter en voiture et d'aller voir ses malades qui l'attendaient. La portière dit à Godefroy de venir le lendemain avant 9 heures. En se souvenant de la recommandation de M. Alain sur la parcimonie qu'il fallait apporter dans ses dépenses personnelles, Godefroy allait dîner pour 25 sous rue de Tournon et fut récompensé de son abnégation en s'y trouvant au milieu de compositeurs et de correcteurs d'imprimerie. Il entendit une discussion sur les prix de fabrication, à laquelle il prit part, et il apprit qu'un volume in octavo, composé de 40 feuilles, tiré à 1000 exemplaires, ne coûtait pas plus de 30 sous l'exemplaire dans les meilleures conditions de fabrication. Il se proposa d'aller s'informer des prix auxquels les libraires de jurisprudence vendaient leurs volumes, afin d'être dans le cas de soutenir une discussion avec les libraires qui tenaient M. Bernard dans leurs mains, s'il se rencontrait avec eux. Vers 7 heures du soir, il revint au boulevard du Montparnasse par les rues de Vaugirard, Madame et de l'Ouest, et il reconnut combien ce quartier était désert, car il n'y vit personne. Il est vrai que le froid sévissait, la neige tombait à gros flocons, et les voitures ne faisaient aucun bruit sur les pavés. « Ah, vous voilà, monsieur !» dit la veuve Vautier en voyant Godefroy. « Si j'avais su que vous viendriez de si bonne heure, j'aurais fait du feu. »«
C'est inutile !» répondit Godefroy en voyant que la Vautier le suivait. « Je passerai la soirée chez monsieur Bernard. »«
Ah, bien ! Vous êtes donc son cousin ! » Que vous voilà dès le second jour à peau et à roue avec lui. Je croyais que monsieur achèverait la conversation que nous avons commencée.
Ah, les 400 francs, dit Godefroy tout bas à la veuve.
Écoutez, maman Vautier, vous les auriez touchés ce soir si vous n'aviez rien dit à monsieur Bernard. Vous ménagez la chèvre et le chou, vous n'aurez ni chèvre ni chou, car pour ceux qui me regardent, vous m'avez trahi. Mon affaire est tout à fait manquée.
« Ne croyez pas cela, mon cher monsieur. Demain je pars d'ici, comme vos auteurs, au petit jour. »
les antécédents de Godefroy, sa vie de dandy, de journaliste, le servit en ceci, qu'il avait assez d'acquis pour deviner que, s'il n'agissait pas ainsi, le complice de Barbet irait avertir le libraire de quelque danger, et que les poursuites commenceraient de manière à compromettre en peu de temps la liberté de M. Bernard. Tandis qu'en laissant croire à ce trio de négociants avides que leur combinaison ne courait aucun risque, ils resteraient tranquilles. Mais Godefroy ne connaissait pas encore la nature parisienne quand elle se déguise en veuve Vautier. Cette femme voulait avoir l'argent de Godefroy et l'argent de son propriétaire. Elle courut aussitôt chez son monsieur Barbet, pendant que Godefroy changeait de vêtements pour se présenter chez la fille de monsieur Bernard.